I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker, car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne, entre autres, quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant, avec mes petites mains, les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons, et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de deux enfants, l'un allaité une année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement, et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez une minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, si tu débarques sur cet épisode, je t'invite à écouter le précédent parce qu'aujourd'hui, je vais raconter ma préparation à l'accouchement qui se déroule évidemment au fil de la grossesse en 2023. Voilà, et puis cette grossesse, elle est un peu particulière pour les raisons que j'énonce dans le premier épisode. Bon, puisqu'elle est compliquée physiquement, psychologiquement, et que je rappelle que le mois de juin, qui est en fait le 7e mois, entre le 6 et le 7e mois de grossesse, est franchement compliqué suite à des petits déboires, on va dire, à la maison. La préparation à l'accouchement, c'est vraiment un truc que je repousse. Cette fois-ci, j'ai pas vraiment eu de suivi avec une sage-femme. J'ai vu une sage-femme à côté de chez moi deux fois sur la fin de la grossesse, juste pour me remémorer les principaux trucs. Mais il se trouve que comme je suis ostéopathe et que je travaille en périnatalité, que je suis beaucoup de femmes enceintes et que voilà, je suis globalement à jour de tout ça, peut-être que c'est une erreur de ma part, j'en sais rien. En tout cas, je ressens pas le besoin de refaire une préparation classique à l'accouchement avec une sage-femme. Et donc j'en vois une un peu par principe et aussi pour me dire qu'elle pourra me voir en prado. Donc ce système qui permet d'avoir une sage-femme qui vient vous voir à la maison en postpartum, après le retour de la maternité. Parce que par contre, voilà, je me dis que si j'ai pas quelqu'un qui m'a suivi pendant la grossesse, peut-être que ce sera plus difficile de trouver quelqu'un après l'accouchement. Donc je rencontre quelqu'un de très sympa, je fais deux consultations avec elle. Je lui demande si elle a des recos pour moi par rapport à mon projet et voilà. Mon projet, il est physio cette fois-ci. Il l'était déjà un petit peu la première fois, en vérité. La première fois pour une raison principale, parce que j'étais pas encore aussi renseignée que je le suis aujourd'hui. Et la première fois, en fait, ça s'explique par la toute première grossesse, celle qui malheureusement n'arrive pas à terme et qui se solde par une interruption médicale de grossesse. En fait, le jour où je vais au bloc, parce que j'ai quand même eu la chance, on va dire, si on peut appeler ça de la chance, mais en tout cas de pas accoucher par voie basse. Moi, à cette période-là, je considère que c'est de la chance. Le timing est très, très serré, mais il m'est autorisé de faire ça sous aspiration. En gros, ce bébé-là avait des malformations telles, il était en fait collé à son placenta depuis son ventre. Et de ce fait, en fait, bon, en grandissant, il ne serait soit pas né, il serait mort in utero, soit il serait mort né. L'accouchement n'aurait pas pu se dérouler. J'avais le choix entre, au timing où c'était, entre faire encore une aspiration, même si c'était limite, et faire un accouchement voix basse. Et puis, j'ai décidé que c'était mieux pour moi de faire un curetage. Aspiration, curetage, c'est la même chose. Parce que ça me semblait moins traumatique sur le moment. J'ai été franchement très bien accompagnée. J'ai été accompagnée à Louis-Mourier, à Colombes, dans un hôpital voilà, avec un diagnostic anténatal. Je remercie infiniment cette sage-femme et je lui écris encore aujourd'hui. Là, je lui ai donné des nouvelles de nous pour lui dire que maintenant, on était quatre parce qu'ils nous ont suivis après pour les échographies à chaque grossesse. On a eu un accompagnement psychologique et médical qui était vraiment canon. Mais le seul truc, à la limite, qui s'est pas super bien passé en termes d'accompagnement, c'est que le jour où j'arrive au bloc pour donc cette aspiration de ce bébé qui, malheureusement, ne serait pas arrivé à terme, je sais pas si c'est l'anesthésiste, enfin quelqu'un, en tout cas dans ce couloir tout froid là, me dit vos résultats de prise de sang sont revenus et bon, vous avez un trouble de coagulation, donc bon, bah là, c'est bon pour aujourd'hui, mais ça peut contre-indiquer la péridurale. Bon, j'étais ravie de savoir ça alors qu'on était en train de m'enlever un bébé du ventre. Mais en tout cas, ça reste que ça s'était logé dans un coin de ma tête. Et que sur la deuxième grossesse, donc pour la naissance de mon premier enfant, je m'étais quand même dit que bah, y avait une possibilité qu'on me refuse la péridurale. J'ai un déficit en facteur 11 qui n'est pas du tout symptomatique au quotidien. Donc c'est un trouble de coagulation, pardon, côté je coagule pas assez. Je peux ne pas coaguler assez. Et pendant les grossesses, c'est quelque chose qui peut avoir tendance à un peu décompenser. Donc, très bien, bonne nouvelle. Donc, je me dis, bon, ben, je verrai plus tard. Et quand la première grossesse arrive, je me dis quand même que ce serait peut-être pas mal que j'ai 2-3 tips pour savoir ce que c'est qu'un accouchement sans péri. Parce que si jamais d'aventure, en plus, c'est le truc que vous savez, le jour de l'accouchement, en gros, hein, si jamais je peux pas avoir de péri, qu'est-ce qui se passe? Bon, outre ça, je suis ostéopathe. Je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que la nature fait bien les choses. Et donc, j'ai quand même cette petite graine dans ma tête. Et je me dis, bah, Charlotte, prépare-toi comme ça. Et puis, tu verras bien ce qu'il advient. Si jamais c'est trop dur et que tu peux avoir la péridurale, et bah, tant mieux. Et puis, sinon, en tout cas, fais en sorte que le travail avance de façon optimale sans péridurale. Donc, ça, c'est la première raison. Et c'est aussi une des raisons qui m'a amenée à choisir un accouchement plutôt physio sur cette deuxième grossesse. Enfin, sur cette troisième grossesse et ce deuxième enfant. La deuxième raison qui fait que je choisis un accouchement plutôt physio, en tout cas de me préparer à un accouchement physiologique pour cette troisième grossesse, pardon, c'est que bon, je suis assez persuadée que c'est le mieux, que ce soit pour la mère ou pour le bébé, pour se remettre ensuite. Bah, c'est pas d'anesthésie, donc c'est pas de médicaments dans votre sang et qui va sur le bébé. C'est du postpartum immédiat plus facile, c'est une mise en place de l'allaitement qui est plus simple, tout ça aujourd'hui c'est assez documenté. Puis j'avoue que j'ai quand même envie de savoir ce que c'est que d'accoucher sans péri. Il y a un truc en moi qui me fait dire, j'ai envie de savoir en fait comment on faisait avant que la péridurale existe, parce qu'elle existe depuis quand même pas si longtemps que ça à l'échelle de l'humanité. J'ai pas envie d'accoucher seule à la maison, j'aurais jamais accouché seule à la maison, mais avec une sage-femme qui sait faire ça à la maison. Moi, ma façon à moi de me sentir en sécurité, c'est d'être dans un endroit qui à la fois respecte la physiologie et à la fois a tout le côté médical vraiment sur place. Voilà. Bon, il se trouve que de toute façon, avec cette histoire de coagulation, je n'ai jamais posé la question, mais je ne pense pas qu'une sage-femme aurait validé mon dossier. Déjà, là où j'étais dans un niveau 1, ça a été un peu sujet à controverse. Je l'ai su le lendemain de l'accouchement. De toute façon, l'accouchement à la maison, voilà, c'est pas ce que moi je souhaite pour moi-même. Je trouve ça génial que des femmes puissent le faire et j'aimerais que ce soit mieux pris en compte, mieux mis en valeur pour d'abord pour les sages-femmes qui le pratiquent, pour les mères qui le souhaitent, etc. Mais moi, c'est pas là que je me sens bien et je pense qu'on me l'aurait pas validé quoi qu'il arrive. Et alors, si j'avais dit ça à mon conjoint, je pense qu'il serait pas venu à l'accouchement, quoi. Il serait parti dans un autre foyer. Non, en fait, c'est pas ce qui nous convient à nous en tant que famille. Donc, du coup, je cherche un endroit où on va respecter au maximum le travail physiologique naturel et à la fois que je vais avoir ce backup médical dont moi j'ai besoin pour me sentir bien. C'est du coup à la maternité de Nanterre que je décide d'accoucher. Même là-bas, ça n'a donc pas été hyper facile finalement de garder mon dossier. Je l'ai appris le lendemain de l'accouchement, mais avec cette histoire de trouble de la coagulation, j'ai fait un peu peur à certains. Je l'ai compris le lendemain de l'accouchement, mais il y a eu des signes pendant l'accouchement. J'étais un peu le dossier brûlant du moment. Et donc, je me suis préparée de différentes façons au sein de cette grossesse un peu compliquée. Et pour ma première grossesse, ce que j'avais déjà mis en place, justement, autour de l'accouchement physio, c'était que j'avais lu le bouquin de Ina May Gaskin qui s'appelle « La naissance naturelle », il me semble, ou « L'accouchement naturel ». En tout cas, voilà, ce livre, pour moi, était un peu une bible de l'accouchement. J'y ai lu des récits d'accouchement qui se passaient bien et de façon physio dans des maisons de naissance aux États-Unis. J'y ai relu toute la physiologie. Bref, enfin, je le trouve hyper rassurant. Je pense qu'il devrait être lu un peu quoi qu'il arrive par tout le monde. On a un bébé dans le ventre, en fait, qu'il va falloir accoucher. Parce que ça permet quand même de se remettre dans la physiologie et de comprendre, voilà, en fait, pourquoi, normalement, tout se passe bien. Pour la première grossesse, enfin première grossesse, c'est la deuxième, hein, je vais dire première, mais c'est la deuxième, donc c'est celle en tout cas qui a amené une naissance. J'avais fait avec mon conjoint ce qui s'appelle de l'hypnonaissance, donc hypnobirthing aux États-Unis. Ça avait beaucoup aidé parce que c'était donc avec une femme qui enseignait ça. C'était un peu dans la même veine que le Ina May Gaskin, le livre. C'était revenir sur la physiologie, mixer ça à de l'hypnose. Et je me souviens que j'avais quand même une certaine peur d'accoucher, moi. Je pense que gamine, j'ai entendu des trucs qu'il fallait peut-être pas entendre. Je sais que mes études m'ont beaucoup perturbée sur ça. Et puis, être au contact de femmes qui avaient accouché au cabinet avant de rentrer moi-même dans ce monde-là et d'être beaucoup en contact avec elles, c'est un peu biaisé. Moi, je suis ostéopathe, donc si je reçois des femmes en consultation après leur accouchement... Bon, a priori, alors soit il y en a qui viennent simplement pour des contrôles, et évidemment, il faut venir en postpartum pour contrôler que tout est bien en place. Mais je pense que c'est quand même un peu biaisé. On vient plus quand on a mal, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais quand même eu beaucoup de récits d'accouchements qui ne se passaient pas terribles, de postpartum compliqués. Et de manière générale, j'avais un peu peur d'avoir un gamin. Pour ces raisons-là, aussi pour ce que ça pouvait venir déséquilibrer dans le couple et tout. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Toujours est-il que... J'avais pas une vision de l'accouchement comme d'un truc qui allait bien se passer. J'avais franchement un peu peur. Et à la sortie de ces séances d'hypnobirthing, je me souviens de dire à la fille qui me suivait, eh ben, en fait, j'ai hâte d'essayer. Voilà. Et elle m'avait dit, bon, ben, je crois que j'ai gagné, c'est déjà pas mal. Et en effet, de là où je partais, c'était déjà pas mal parce que j'avais plus peur. Je me disais que j'avais envie de tenter. Et donc voilà, l'hypnobirthing, pour moi, ça a été quand même d'une grande aide. Et c'est ce que j'ai fait à la première grossesse. En complément d'un accompagnement classique avec la sage-femme, et raison pour laquelle je ne l'ai pas refait la deuxième fois en entier, parce que la sage-femme que je voyais était assez conventionnelle. J'avais plutôt l'impression qu'elle m'énonçait tout ce qui allait mal se passer dans l'accouchement et qu'elle me remettait dans mes travers et dans mes peurs, plutôt que de me rassurer. Donc voilà, en tout cas, entre l'hypnobirthing et la préparation classique, j'ai trouvé un équilibre et je suis partie à l'accouchement, à ce premier accouchement, sereine, même s'il a été extrêmement long, avec un bébé qui regardait pas au bon endroit, etc., qui était mal positionné. Donc, ça a été un accouchement très long, mais qui, malgré tout, s'est fini par voix basse. Donc, j'en garde pas un mauvais souvenir. Voilà, je garde un bien plus mauvais souvenir de la première grossesse, même que du premier accouchement. Parce que l'accouchement, comme je dis toujours, bon, voilà, certes, c'est long, mais en fait, même si ça avait duré 26 heures, ce qui est quand même assez long, j'avais dit, bon, voilà, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. La grossesse, c'est quand même un peu le bagne. Cet accouchement très long, il m'avait laissé voilà, pas de mauvais souvenirs. Franchement, j'ai pas été traumatisée par la longueur de cet accouchement. J'avais trouvé ça assez pénible. Mais finalement, ça s'était quand même bien terminé. J'étais pas abîmée. J'ai eu un premier postpartum facile. Pas de périnée abîmée, pas de galère comme ça. Un allaitement qui s'est bien déroulé. Enfin, moi, le postpartum, vraiment, je revis en fait. Hein, parce que je reviens à moi-même. Et donc, le premier allaitement s'est bien passé. Le premier postpartum aussi. Moi, physiquement, je suis en forme. Donc, j'ai pas du tout de souvenirs traumatiques de ce premier accouchement, bien qu'il soit long et assez désagréable. Ça se termine par voix basse. La sage-femme qui était là, elle-même n'y croyait pas, mais en tout cas, moi, je savais où je devais pousser, et puis j'ai poussé au bon endroit. Expulsion dirigée et compagnie. Et donc, j'arrive à cette deuxième grossesse, et pour me préparer, je décide qu'il va falloir que j'aille quand même un peu plus loin dans le process, parce que j'avais l'impression de faire pas mal de choses la première fois. Et ouais, au bout de 15 heures de contraction, franchement, j'en pouvais plus quand j'ai pu avoir la péridurale. J'ai dit, mettez-la moi tout de suite. Je n'en peux plus. Et puis, je me considère pas particulièrement comme quelqu'un de très résistant à la douleur, en fait. Donc, du coup, j'ai assez peur de cette douleur et de l'intensité dans laquelle elle peut monter. Pour ce deuxième accouchement, je décide qu'il va falloir que j'aille plus loin dans la préparation. J'ai fait plusieurs choses en plus de la première fois. Déjà, j'ai lu et j'ai fait lire à mon conjoint les BD de Lucille Gomez. Alors ça, Je crois que, au même titre que le Ina May Gaskin, je ne peux que vous le conseiller. C'est quand même ultra ludique, c'est plein d'humour. Pour les mecs, c'est vraiment hyper facile d'accès. Vous n'allez pas leur fourrer un pavé là, dans les mains à lire. Alors, ils sont gros, hein, les livres, mais voilà, c'est des BD, ça se lit en deux secondes. Mon conjoint, il a apprécié les livres, il les a lus last minute, je crois qu'il les a lus dans les 15 derniers jours de la grossesse, ou peut-être un tout petit peu avant. Mais c'est les infos qu'elle donne, c'est la physiologie qu'elle vous rabâche un peu sur 3 tomes, mais en fait, ça permet que les informations essentielles se soient ancrées. Et bon, mon mec, il est ressorti de là avec vraiment ce dont il avait besoin en fait pour m'accompagner. J'ai trouvé que vraiment ces 3 BD dont j'avais beaucoup entendu parler, j'étais contente de les lire et je crois que maintenant c'est le premier truc que je conseille à quelqu'un qui veut accoucher parce que ça permet d'avoir une lecture sympathique d'un truc très riche quand même en termes d'informations. Et voilà, et puis c'est agréable, elle est là à se marrer avec son chat à toutes les pages, le chat qui dit des conneries. En fait, le chat est un peu le monde médical et nos idées reçues qu'on a sur l'accouchement et sur la naissance. Et elle est là et puis essaie d'éduquer ce chaton qui rechigne un petit peu et qui finalement finit par se laisser convaincre. Elle parle des lunettes de la physiologie et des lunettes de la peur et comment notre société voit l'accouchement par le prisme des lunettes de la peur et pas de la physiologie. Donc ça met bien les idées en place et franchement, c'est vraiment un super conseil, c'est un beau cadeau à faire à une femme enceinte qui va accoucher, les BD de Lucille Gomez sur la naissance en BD, ça s'appelle. Donc ça, je le conseille vraiment vivement, vivement. Ensuite, j'ai fait la préparation de Quantique Mama, Karine Laceva. J'ai longtemps hésité à l'acheter, cette préparation à la naissance. J'en avais beaucoup entendu parler de différentes façons, en général de la bonne façon. Je ne savais pas si l'état d'esprit me convenait, finalement. Et puis, un jour, ma doula est venue à la maison et on en a parlé. Et puis, je regarde le site internet et puis il y avait des réductions à ce moment-là. Donc, en bonne consommatrice de réduction, je me suis dit que je faisais une affaire. Et donc, j'ai pris la préparation de Quantique Mama. J'ai pris la préparation virtuelle à la naissance et j'ai pris le Transcender la douleur avec Gilly Bonapace. Bonapace, je ne sais pas comment on dit. Enfin, qu'importe. En tout cas, elles sont toutes les deux. Eh bien, écoutez, contre toute attente, alors, il y a des choses qui se recoupent entre le Ina May Gaskin que je connaissais bien, la lecture de Lucille Gomez dans Quantique Mama, évidemment.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que vous preniez l'un ou l'autre, et après, ça se répète un petit peu, on va dire, d'une lecture à l'autre, d'une écoute à l'autre. Mais ce qui est important, en fait, c'est de rabâcher les choses qui sont importantes. Vous savez, on apprend par la répétition. Et je crois que voilà, c'était très important. Pour moi, mais ça l'est sûrement pour plein d'autres mondes, d'avoir le même discours aussi de façon de personnes différentes, parce que tout ça se recoupe et que ça s'ancre bien dans le mental. Et vraiment, contre toute attente, c'est finalement cette préparation-là qui, pour moi, aura été la plus utile, parce que je la raconterai dans l'épisode sur l'accouchement, mais elle vous décrit une façon de respirer pendant les contractions, de souffler, de faire un peu le cheval, là, comme ça. Et moi, ça m'a accompagnée du moment où les contractions se sont intensifiées, quasiment jusqu'à l'expulsion, en fait. Et ce truc-là était tellement bien pour moi que je peux dire que j'ai même pas ressenti, vous savez, cette phase de sommeil là dont on parle, où les contractions sont... Ouais, tu t'en souviens, toi ? Elle parle à côté. Où les contractions sont tellement intenses, vous êtes dans les derniers centimètres avant d'arriver à dilatation complète. Et y en a qui disent qu'elles ont la sensation qu'elles allaient mourir, en fait. Et bon, qui a envie de ressentir ça ? Moi, c'était vraiment cette phase-là qui me faisait plus que peur. Et donc, j'essayais par tous les moyens de me préparer à passer ce cap-là. Bah, figurez-vous que je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait mon sommet. Et je pense que la respiration que j'ai gardée jusqu'au bout, tout le long des contractions, m'a vachement aidée. Et d'ailleurs, la doula qui était là avec moi ce jour-là, Elsa, si tu passes par là, m'a dit t'as été impressionnante parce qu'en fait, t'as rien lâché sur ta respiration de A à Z. T'as continué de faire ton truc et on voyait que ça t'aidait. En tout cas, la préparation de Quantique Mama, moi j'ai tendance du coup à la conseiller parce qu'encore une fois, c'est toujours ces mêmes infos qu'on dit, qu'on redit. Elle vous explique aussi très bien que ça fait pas si longtemps que ça, qu'on a peur d'accoucher et que je sais plus ce que c'est le truc exact, mais il me semble que si l'histoire de l'humanité démarrait il y a 24 heures, ça fait juste quelques minutes qu'on a peur de l'accouchement et qu'il est sous péridural. Donc voilà, je trouve que ça remet un peu les idées en place et ça c'est vraiment, pour moi ça a été précieux. J'ai aussi lu le livre de Marie Trelawne qui s'appelle « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?» il me semble. J'essaierai de vous remettre peut-être les références quelque part, dans un réel ou autre. J'essaierai de faire ça. Si jamais vous avez une question, revenez vers moi en MP ou par mail sur mon site et j'essaierai de vous retrouver tout ça si jamais j'oublie de le faire. Mommy Brain. Et donc Marie Trelawne, là, alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé aussi. Pareil, beaucoup de répétitions sur certains aspects. Mais c'est un livre qui, un peu comme le Ina May Gaskin, m'a beaucoup accompagnée. Et surtout, à la fin du livre, il y a une sorte de lettre à la mère qu'on va devenir et à cette femme qui va accoucher. Elle parle de se laisser bercer, emporter par les contractions. Et je ne sais pas, ça dure 3 pages. Enfin, c'était sur ma tablette que je le lisais. Et ce truc-là, pendant les contractions, vraiment, il m'est revenu. Voilà, ce texte m'est revenu, il m'a vachement accompagnée. Donc, je peux que vous le conseiller parce que le livre en entier est super. Si vous n'avez pas le temps de tout lire, voilà, moi, cette fois-ci, le Trelawne et la préparation de Quantique Mama, les lectures de Lucille Gomez, ça aura fait vraiment beaucoup. Et vraiment, j'ai un petit, une affection toute particulière pour les dernières pages du Trelawne que j'ai trouvées, peut-être que je les ai lues aussi enfin, toute fin de grossesse et que j'étais déjà complètement partie au niveau psycho. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup accompagnée et même pendant les contractions, voilà, de venir y penser et de se laisser emporter. Je ne retrouverai pas les mots qu'elle donne là et puis de toute façon, je vous invite à le lire, il faut que chacun puisse se les approprier comme il veut, mais ça m'a beaucoup aidée. J'ai aussi fait des séances d'EFT, pas que pour la préparation à l'accouchement. L'EFT, c'est un truc qui m'a accompagnée pendant la grossesse, parce que je rappelle que psychologiquement, j'étais vraiment à mal. Et donc, j'ai rencontré une thérapeute super, dont je vous redonnerai le nom en message privé si vous le souhaitez, qui est pas très loin de chez moi. Et puis, en fait, on se connaissait par le centre de soins où je travaillais. Et j'ai eu la chance, alors que j'étais franchement pas du tout en forme, comme elle habite pas très loin de chez moi, qu'elle vienne à domicile. Et alors, franchement, ça a été un des trucs les plus cool de la grossesse qu'elle m'accompagne. Et donc, j'ai refait juste avant. Alors, ça m'a aidée voilà, à tenir le coup psychologiquement, pas que sur l'aspect grossesse en lui-même, mais aussi sur tout ce que j'avais à travailler d'avant. Elle m'a beaucoup aidée pendant la grossesse. Et puis, juste avant l'accouchement, je l'ai rappelée un peu last minute et je lui ai dit « Audrey, j'ai peur d'accoucher. » Enfin, j'ai peur d'accoucher. J'ai pas peur d'accoucher parce que j'avais plus peur d'accoucher, mais je lui ai dit « J'ai quand même peur d'avoir trop mal et de pas tenir mon envie de pas de péri. » J'avais peur d'avoir peur, en fait. Voilà. J'avais peur de cette phase de sommeil. Quand on a peur d'avoir peur, on se retrouve dans une boucle un peu infernale. Et je lui ai dit « Est-ce que tu veux bien me refaire une séance avant que j'accouche ?» Elle a évidemment accepté. J'ai fait ça et puis elle m'a conseillé une séance avec une hypnothérapeute avec qui elle travaille pour m'accompagner aussi sur cette peur de la douleur. Et donc, je crois que j'ai fait la séance le lundi matin et j'ai accouché le vendredi, vous voyez, d'hypnose. Donc, elle aussi était super. Je l'ai fait en visio parce que franchement, je ne pouvais plus me déplacer. J'étais trop grosse, mais j'étais trop au bout du rouleau. Et pourtant, elle n'était pas très loin de chez moi, mais il faisait très, très chaud aussi sur la fin. En tout cas, voilà, du coup, j'ai fait ces deux choses-là juste avant, vraiment sur la partie le sommet, cette peur, d'avoir mal, qui me faisait dire que j'allais pas réussir à aller jusqu'au bout. Avec tout ça, j'arrive un peu à l'accouchement en me disant « Charlotte, t'as fait un peu tout ce que tu pouvais, tout ce qui te semblait juste maintenant pour que ça se passe le mieux possible. » J'y croyais sans y croire, parce que je me disais vraiment que j'allais pas tenir jusqu'au bout, un peu comme la première fois, et puis surtout si jamais c'était long, quand on a eu un premier accouchement de 26 heures, on se dit que si on repart sur le même mood la deuxième fois, ça va quand même pas être facile de tenir sans péri jusqu'au bout, mais je sais que j'ai fait un peu tout ce que je pouvais pour que ça se passe au mieux, donc c'est la dernière chose que je ferais pour me préparer à l'accouchement. J'ai fait du yoga pendant la grossesse, pas tellement en préparation à l'accouchement, juste pour rester mobile, parce que j'ai quand même été beaucoup, pas alitée au sens propre du terme, mais alitée du fait d'être trop malade. J'ai passé énormément de temps allongée, j'avais mal partout, j'avais une hanche complètement en vrac, j'avais le dos, mais je pouvais pas rester assise plus de 5 minutes sans souffrir des dorsales atrocement. Et l'ostéopathie n'aidait que peu, parce que en fait, je bougeais tellement pas que ça n'allait pas. Donc j'avais fait du yoga les 2 derniers mois de la grossesse, les 3 derniers mois même, on va dire. Non, les deux derniers mois, en fait. Hein, à partir de mi-juillet, quand je pars en vacances, ça m'a fait du bien. Ça n'a pas non plus réglé les choses. Mais en tout cas, je me suis dit, voilà, pareil, c'est ça de prix en termes de mobilité. Parce qu'arriver à l'accouchement toute engoncée dans mon bassin, là, qui n'a pas bougé de la grossesse, c'est quand même pas génial. Dernière chose, dans cette préparation, on va dire, à l'accouchement, c'était de prendre la décision qu'une doula vienne avec nous. Donc finalement, c'est Nanterre qui a accepté mon dossier pour accoucher là-bas. Nanterre, c'est une maternité de niveau 1 qui est assez réputée pour l'accompagnement des accouchements physiologiques. Mais voilà, c'est vous restez sur place si jamais il y a besoin d'une péridurale, d'une césarienne ou quoi que ce soit. Par contre, vous n'avez pas de réanimation néonate. Si jamais votre bébé va pas bien rapidement après l'accouchement, il est embarqué ailleurs. Donc, c'était un des points sur lesquels j'avais besoin de discuter avec eux parce que mon premier bébé avait fait une détresse respiratoire et avait eu besoin de soins, mais c'était un truc qu'ils pouvaient gérer. Et si moi, je faisais quelque chose d'un peu costaud, genre hémorragie costaud, etc., bah, voilà, ils gèrent une partie, mais pas tout. Mais ils acceptent que les doulas viennent à l'accouchement. Et donc, ça, c'était vraiment le point que moi, j'avais envie qu'il soit accepté. Parce que j'avais envie de cet accompagnement-là pour différentes raisons. D'abord pour moi, parce que j'avais envie de quelqu'un qui m'accompagne, en plus de mon mec. J'avais pas envie de donner à mon conjoint ce rôle de coach, en fait, d'accouchement. Je savais que j'en avais besoin d'un, en tout cas que j'en avais envie, mais je ne me voyais pas assigner cette tâche-là à mon conjoint, qui pourtant, après coup, je me dis, l'aurait certainement prise, mais j'avais envie d'enlever la pression sur ça. Ne me demandez pas pourquoi j'ai un peu l'impression que l'accouchement, c'est un truc de femme. Et je voulais que lui, il puisse se dire, même bien informé, même en ayant à 100% l'envie d'être avec moi dans ce moment-là, je voulais qu'il puisse se dire que si à un moment, il avait besoin déjà de ne pas venir dans un accouchement physio, parce que c'est un truc où on se retrouve quand même à être un animal, s'il avait besoin de ne pas être là tout court à l'accouchement, s'il avait besoin de sortir de la pièce à un moment parce que ce qu'il voyait lui convenait pas, ou en fait, je voulais qu'il soit vraiment libre et moi, ça ne m'aurait même pas dérangé, en vérité, qu'il me dise « Écoute, j'assiste pas à l'accouchement parce que ton projet, je le respecte, mais ce n'est pas ce que moi, j'ai envie de retenir de la naissance des enfants. » Et bien, en fait, il n'y aurait eu aucun problème. Mais il se trouve que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et qu'il avait très envie d'être là et que, contre toute attente, c'est même pas contre toute attente d'ailleurs, enfin, c'est qu'il a été hyper présent et hyper accompagnant. Et que je ne pense pas qu'il ait été traumatisé, loin de là, puisque quand il en reparle aujourd'hui, il dit que c'était juste incroyable, que c'était complètement fou. Et d'ailleurs, il dit aussi que la meilleure décision qu'on ait prise, c'est de faire venir une doula à l'accouchement. Vous voyez, comme quoi, c'était pour moi et puis c'était aussi un peu pour lui, voire beaucoup, parce que vraiment, je n'avais pas envie de mettre une pression sur sa présence et la façon d'être présent sur cet accouchement-là. Alors que je pouvais le faire avec une doula, voilà, parce qu'elle, c'est leur métier, et que j'avais la chance de connaître Anne Bellargent, qui est la doula qui travaillait avec moi au centre IG4U. Et puis, Anne était, il se trouve, en fait, de formation au moment où moi j'accouche. Et il y avait une semaine durant laquelle on avait demandé à Elsa Usan, qui est une autre doula que je connaissais déjà très bien, mais qui est à l'opposé au niveau géographique de Paris. Et on avait demandé à Elsa d'être d'astreinte cette semaine-là pour m'accompagner si jamais moi je décidais, enfin le jeu décidait ou Roma décidait d'arriver cette semaine-là. Donc voilà, il y a un espèce de relais qui se fait entre les doulas sur un petit mois pour être sûr qu'il y ait quelqu'un avec moi le jour de l'accouchement. C'était vraiment important pour moi. Et c'est finalement Elsa qui aura eu le plaisir, j'espère, d'être là le jour de l'accouchement. Mais c'est Anne qui m'a accompagnée en tant que doula tout au long de la grossesse pour échanger, discuter, connaître mes projets. Et puis, on avait juste fait une séance avec Elsa 3 semaines avant que j'accouche pour que Julien la rencontre aussi parce que pour le coup, il ne l'avait pas vue, contrairement à Anne. Et donc, voilà, on a un peu fait un double accompagnement doula pour la préparation à l'accouchement. C'était vraiment d'une douceur incroyable pour moi de savoir qu'une des deux allait être là. Je ne sais pas pourquoi j'étais assez persuadée que c'était Elsa. Quand je réfléchissais à mon accouchement, je voyais Elsa avec moi. Et enfin voilà, j'étais en confiance autant avec l'une qu'avec l'autre. Donc c'est Elsa finalement qui aura été là ce jour-là. Et si vous avez le projet d'un accouchement physio, vraiment je peux que vous recommander à 100% de trouver une doula qui vous convienne, qui a un rôle complètement différent de celui de la sage-femme. En fait, ce n'est vraiment pas des choses qui se satellitent entre elles. Pour moi, c'est tellement complémentaire. Voilà, Elsa, elle est restée face à moi, les yeux dans les yeux, quand j'étais en train d'expulser mon bébé, pendant que la sage-femme, elle était de l'autre côté. Enfin, pour moi, c'est vraiment deux métiers super différents. Et d'ailleurs, ça, c'était beau ce qui se passait dans cette salle ce jour-là. On en reparlera parce que parce que je pense que chacun était complètement à sa place. Et si guéguerre de temps en temps il y a entre les deux, je trouve que ça, enfin, de mon point de vue, ça n'a pas lieu d'être. Les femmes, elles ont besoin juste d'accompagnement de A à Z. Et moi, ce jour-là, bah voilà, Elsa était là, les sages-femmes étaient là et tout s'est bien passé. Et voilà, je vous raconterai ça dans un épisode suivant. En tout cas, le 14 septembre, avant d'accoucher le 15, est-ce que je suis prête avec tout ce que j'ai fait? Franchement, je ne sais pas si un jour on est prêt. Mais en tout cas, j'avais tellement envie d'accoucher parce que je rappelle que cette grossesse ne me plaît pas et que jusqu'au bout, elle aura été galère. J'ai tellement envie d'accoucher, j'ai tellement envie de rencontrer mon bébé. Et j'ai surtout tellement hâte que cette grossesse se termine que honnêtement, là, j'ai pas peur d'y aller. Je sais pas comment ça va se terminer. Je sais pas si je vais prendre une péri. Je sais pas si ça va aller dans le sens que j'ai envie. Mais en tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est que ça s'enclenche. Et donc, ça s'enclenchera le 15 décembre à minuit et demi. Je vous raconte ça dans un autre épisode. Allez, salut. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.